Alors, le topo qui commence, il a pour titre « Contre la montée électorale de l'extrême droite, la nécessité d'une politique de classe ». Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Au présidentiel de 1974, le Front national récoltait moins de 1% des voix, 190 000. Au présidentiel de 2022, Le Pen comptabilisait 8 millions de voix, et aux dernières élections municipales, le RN a progressé partout où il s'est présenté. Et si ses scores sont moins importants que lors des scrutins nationaux, son influence se mesure aux thèmes abordés dans leur campagne par tous les candidats jusqu'à ceux de gauche et relayés par les médias. Tous ont surenchéri sur le thème de la sécurité, réclamant plus de caméras de vidéosurveillance, plus de policiers municipaux, en répandant leur lot de préjugés contre les immigrés et les pauvres. Historiquement, le Front National, fondé entre autres par des membres de l'OAS et d'anciens SS, a de l'influence dans les beaux quartiers, chez les petits patrons et commerçants anticommunistes, dans les beaux chez les nostalgiques de l'Algérie française et les catholiques intégristes. Le drame actuel, c'est que ce sont les nôtres, les travailleurs, et de plus en plus nombreux, qui donnent leur voix à ce parti anti-ouvrier. Alors, pour le moment, cela reste un phénomène surtout électoral. Il attire les voix de ceux qui veulent dégager Macron, d'autant plus que le RN semble être le seul parti à en avoir les moyens. Mais les travailleurs ne sont pas encore embrigadés derrière lui. Le RN ne rassemble pas des milliers d'ouvriers dans des manifestations derrière des slogans racistes. La majorité de ses électeurs ne forme pas des milices pour tabasser les immigrés, ni pour aller saccager les locaux des militants syndicaux. Quant aux véritables militants, ils restent peu nombreux en comparaison de ses scores électoraux. Pourtant, en votant pour le RN, de plus en plus de travailleurs s'approprient leurs idées. Dans les quartiers et les usines où ce poison s'installe, ils dressent des barrières entre travailleurs. Et demain, ce n'est pas impossible que certains électeurs en colère se mettent à défendre leurs idées non seulement avec leur bulletin de vote, mais avec leurs poings. Comme c'est déjà le cas à Mayotte, où des gens forment des milices qui coupent la route aux immigrés comoriens pour les livrer à la police. D'où vient cette vague électorale en faveur du RN? C'est d'abord le pourrissement du capitalisme qui explique la montée des idées réactionnaires que défend le RN. C'est parce qu'il y a une concurrence de plus en plus féroce pour obtenir un emploi ou à défaut une aide financière, pour obtenir un logement social, une place à la crèche, un lit à l'hôpital, ou même une place dans le bus ou le métro. C'est pour ça que le chacun pour soi peut se développer. Et les incivilités, les violences, la désagrégation des rapports sociaux entre les gens sont un terreau fertile au repli sur soi, au racisme et au nationalisme. Le capitalisme a toujours dressé les travailleurs les uns contre les autres, et d'autant plus quand la crise s'approfondit. Pour se maintenir au pouvoir malgré la crise de son système, la grande bourgeoisie met toutes ses forces à accentuer les divisions entre travailleurs pour qu'ils ne se tournent pas contre elles. Ce sont les PDG, les chefs, les sous-chefs, qui mettent en concurrence intérimaires et embauchés, ouvriers d'un site contre un autre, femmes et hommes, français et immigrés. Ce sont les milliardaires, comme Bolloré ou Sterrin, qui mobilisent leurs capitaux en chaînes de télé, en journaux, en banquets, pour rendre les gens racistes. Ce sont les politiciens qui surenchérissent sur le terrain réactionnaire. C'est vrai depuis le début du capitalisme. Chaque période de crise aggrave la guerre de tous contre tous dans la jungle capitaliste. Mais par le passé, la classe ouvrière a construit des organisations qui défendaient une autre perspective. À la guerre des travailleurs pour se partager les miettes, elles ont opposé la lutte collective pour le renversement du capitalisme. Alors la montée des idées réactionnaires chez les travailleurs traduit surtout l'absence d'un parti ouvrier, communiste et révolutionnaire. Ce sont les trahisons successives par le parti socialiste, le parti communiste, et les syndicats des idées communistes, révolutionnaires et internationalistes qui ont laissé derrière elles un champ de ruines. Et en particulier les trahisons du PC, parce qu'il avait la plus grande influence parmi les travailleurs. Grâce au combat de Marx, le mouvement ouvrier révolutionnaire s'est construit sur ce programme que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, qu'il n'y a pas de sauveur suprême, ni syndicaliste, ni politicien. Il s'est aussi construit sur ce programme que les travailleurs n'ont pas de patrie, qu'ils doivent s'unir par-delà les frontières pour renverser la bourgeoisie sur toute la planète. Mais les directions du Parti Socialiste et du Parti Communiste ont tourné le dos à ces idées pour devenir des partis bourgeois. Elles ont cessé de viser le renversement du capitalisme pour n'aspirer qu'à accéder à la tête de l'État pour organiser les affaires de la bourgeoisie. Pour le Parti Socialiste, dès 1914 en appelant les ouvriers à mourir à la guerre. Pour le Parti communiste, sous la pression de la bureaucratie stalinienne à partir des années 1930. Alors, si le Parti communiste développait la conscience d'appartenir à une classe sociale, c'était de façon déformée et travestie. D'un côté, il défendait la perspective d'un autre monde, jusque dans son nom, sans exploitation, sans patron. Dans chaque usine, dans chaque quartier, ses militants et des militantes organisaient des travailleurs autour de l'idée qu'il y avait deux camps dans la société. Cette idée était défendue par des journaux édités par les ouvriers des entreprises, une presse nationale et locale vendue par des militants. Le PC organisait les jeunes, des associations organisaient des vacances, etc. Mais d'un autre côté, il a diffusé très tôt des idées bourgeoises qui ont désarmé les travailleurs. Il a intoxiqué les travailleurs avec le nationalisme, qui revient à dire qu'il y a un intérêt commun entre tous ceux qui ont la même carte d'identité, qu'ils soient patrons ou ouvriers. Déjà durant la guerre, le Parti communiste français appela les travailleurs à se battre, non pas contre les nazis, mais contre les Allemands, en criant « à chacun son boche ». Pour des raisons électoralistes, le PC est même allé jusqu'à distiller le poison xénophobe, comme en 1981, quand le maire par PC de Vitry fit raser un foyer de travailleurs maliens, au moment où le PC expliquait, je le cite, « la cote d'alerte est atteinte, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine ». Fin de citation. Et il a intoxiqué, le PC, les travailleurs avec des idées électoralistes et réformistes. Les travailleurs devaient s'exprimer, oui, mais surtout en votant pour des communistes qui devaient améliorer leur sort par des réformes. Et ils devaient faire confiance à l'État français. Alors, quand le PCF entra à nouveau au gouvernement en 1980, après avoir fait campagne avec le PS pour Mitterrand, les travailleurs connurent l'espoir d'un changement. C'était le premier retour du PC au pouvoir depuis 1947. Ils furent vite déçus. Dans cette période de crise, marquée par les licenciements et la montée du chômage, le gouvernement, de gauche, ne pouvait qu'accompagner les attaques contre les travailleurs. Ce fut entre autres le blocage des salaires, le licenciement par l'État de 20 000 ouvriers sidérurgistes des usines qu'il avait lui-même nationalisées. La direction du Parti communiste demanda aux militants de base de faire passer la pilule auprès de leurs collègues et dans leur quartier. On leur demanda d'arrêter les grèves, car il ne fallait pas gêner les camarades communistes qui avaient, disait-on, juste besoin d'un peu de temps pour améliorer la vie. La désillusion, puis l'écœurement, provoquèrent l'effondrement de la base militante du PC. Ceux des militants qui ne déchirèrent pas leurs cartes se réfugièrent dans le syndicalisme. Dès 1984, le PCF perdait 2 millions de voix aux élections. La CGT passa de 2 millions d'adhérents à 600 000 10 ans plus tard. La perte de ces militants a laissé un grand vide dans les quartiers ouvriers et dans les usines. Même teintés de réformisme et de nationalisme, les militants du PCF et de la CGT défendaient l'idée qu'il fallait se défendre collectivement. Et c'est dans ce vide que se sont engouffrées les idées bourgeoises, le chacun pour soi, les idées réactionnaires, le communautarisme. Les partis de gauche ont profondément écœuré les classes populaires. Ils ont détruit ce réseau militant. Mais il porte la responsabilité de la montée du RN pour une autre raison encore. Parce qu'au pouvoir, ils ont volontairement attisé les idées réactionnaires. Les années où la gauche gouverne sont marquées par les fermetures d'usines et le début du chômage de masse. Il y avait déjà 1,5 million de chômeurs en 1981. En 5 ans, c'est 1 million de plus. Incapable d'empêcher le chômage, et lui-même licencieur de masse, le gouvernement de gauche a donc cherché un bouc émissaire. Ce furent les immigrés. Il a certes régularisé 100 000 immigrés en 1981, mais dès l'année suivante, le ton a changé. Quand les grèves ont éclaté en 1982 et 1983, chez les ouvriers immigrés de l'automobile, le Premier ministre, Pierre Mauroy, expliqua qu'ils étaient manipulés par des groupes religieux. C'était la première remarque xénophobe d'une très longue série. Les partis de droite et d'extrême droite n'ont eu qu'à surenchérir sur ce terrain nauséabond. Et bien sûr, ce sont eux qui en ont bénéficié. Car ce sont eux qui ont le plus clairement assumé ces positions. En 1983, face à la montée des crimes racistes, des jeunes des Minguettes, un quartier populaire de Lyon, ont organisé une marche contre le racisme qui traversa toute la France et eut un grand succès. Ce rejet des idées racistes était une réaction saine contre ces idées qui divisent les travailleurs face au patronat. Mais la gauche, la même qui avait commencé à pointer du doigt les immigrés, lança une campagne contre les discriminations. En 1985, Elle créa l'association SOS Racisme, subventionnée à coups de millions. La préoccupation du gouvernement était bien sûr loin de celle des jeunes des Minguettes. La gauche cherchait à occulter la marche des banlieues pour encadrer les jeunes dans des structures sous son contrôle. Cela lui permettait de s'assurer les voix de la population d'origine immigrée en se présentant comme son défenseur, mais pas sur un terrain de classe. Alors ses discours antiracistes et humanistes n'avaient aucune chance de faire changer d'opinion ceux qui se tournaient vers le FN, car ils n'apportaient aucune réponse au chômage et à la baisse du niveau de vie. Que pouvaient penser les nouveaux électeurs RN en entendant des politiciens de gauche expliquer que les gens qui votent FN sont racistes et qu'il faut les éduquer? Pour lutter réellement contre la montée des préjugés contre les étrangers, il aurait fallu défendre l'unité de la classe ouvrière, pas seulement par humanisme, mais comme une nécessité pour lutter contre le grand patronat. Il aurait fallu défendre la nécessité de se battre contre la bourgeoisie, pour que tout le monde puisse vivre dignement de son travail. Mais ça, la gauche ne voulait pas le faire, car c'est elle qui accompagnait la bourgeoisie dans ses attaques menées contre les travailleurs. C'est la gauche au pouvoir qui a permis au FN d'exister électoralement. Le FN, qui n'atteignait pas 1% au présidentiel de 1974, puis 11% aux élections européennes de 1984, autant que le PCF. Et si dans un premier temps, c'est surtout la petite bourgeoisie qui s'est tournée vers eux, c'est maintenant des larges fractions du monde du travail qui choisissent Le Pen. Alors c'est la gauche qui est la première responsable du vote des travailleurs pour le RN. Elle a martelé qu'il fallait choisir un bon politicien pour améliorer son sort. Alors une fois les politiciens de gauche compromis au pouvoir, les travailleurs en ont cherché un autre qui ne semblait pas l'être. Et la gauche a habitué les travailleurs à la xénophobie et au nationalisme du RN, en les insérant dans son propre discours. Alors aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser des anciens militants du PC expliquer que maintenant ils votent RN, en précisant qu'ils reprennent les idées du PC. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle n'est pas encore au pouvoir, mais elle pèse déjà de tout son poids dans la vie politique. Les politiciens de tous bords s'imprègnent des thèmes et du langage de l'extrême droite, à l'image de Ruffin qui a déclaré récemment, je le cite, « Je refuse le plan d'importation massive de main-d'œuvre étrangère ». Fin de citation. Surfer sur la vague réactionnaire est une nécessité pour beaucoup de politiciens qui veulent arracher un siège à l'Assemblée ou même dans un conseil municipal. La récente campagne qui a visé la France insoumise l'a encore montré. Suite à la mort du militant d'extrême droite à Lyon dans une rixe avec un groupe antifasciste, eh bien la droite, Macron et la gauche se sont tenus la main pour présenter la France insoumise comme un parti violent et antisémite. En même temps que LFI était présenté comme un parti anti-républicain, le RN devenait un parti républicain respectable. Chacun, pour ses propres calculs politiques, a participé à la progression des idées réactionnaires et à la réhabilitation du RN. Même avant de remporter les élections, l'extrême droite pèse dans l'appareil d'État. Exercer le pouvoir dans la période de pourrissement du capitalisme exige d'autres méthodes, plus autoritaires, plus répressives. Ces dernières années, c'est Macron et non Le Pen qui a mis en œuvre cet autoritarisme. Car dans le contexte de montée vers la guerre, l'État cherche à embrigader la population et, s'il le faut, à la faire obéir par la force. Il y a eu la répression des Gilets jaunes. L'État a profité de la crise sanitaire du Covid pour susciter l'Union nationale derrière lui et imposer des mesures autoritaires. Il y a eu la campagne autoritaire contre ceux qui manifestaient un soutien à la Palestine. Des militants jugés pour un tract, des manifestations interdites, des organisations poursuivies pour l'apologie du terrorisme. Et il y a la campagne de plus en plus répressive contre les immigrés. Des juges, des commissaires, des préfets ont accepté de jouer ce rôle répressif, souvent au mépris même de la loi, et parfois avec complaisance. Certains hauts fonctionnaires manifestent déjà leur ralliement au RN, comme Legueri, directeur de l'agence européenne Frontex, récemment mis en cause pour crime contre l'humanité, qui avait d'ailleurs été placé là par François Hollande. Même sans afficher ouvertement leur adhésion à ces idées, des fonctionnaires appliquent déjà les idées de l'extrême droite, à l'image des préfets qui entravent le renouvellement des titres de séjour. Il n'y a jamais eu de cordon sanitaire entre l'extrême droite et l'État de la République, directement issu du régime de Vichy. Les rangs des forces de répression, de la police et de la gendarmerie sont les plus touchés par l'extrême droite. Plus l'État fait appel à eux pour maintenir l'ordre contre les pauvres, plus ils ont le champ libre pour exprimer leurs idées et leurs méthodes. Pour l'instant, le RN reste un phénomène électoral et pas un parti fasciste. Mais ses succès renforcent tous ceux qui rêvent de cela au sein de l'appareil d'État. Et sa victoire électorale pourrait les encourager à cogner, en particulier contre les immigrés. Alors, face à la montée de l'extrême droite, que faire? C'est uniquement sur le terrain de la lutte de classe qu'il est possible de faire reculer le grand patronat et, par la même occasion, l'extrême droite. Car le vote pour le RN, c'est d'abord le vote de la résignation. L'extrême droite surfe sur le manque de confiance de la classe ouvrière dans sa capacité à se battre collectivement pour améliorer son sort. Pour le moment, c'est la bourgeoisie qui mène l'offensive. Les travailleurs mènent des luttes défensives contre une attaque, contre la fermeture d'une boîte, mais de façon dispersée. Quant aux luttes pour arracher des meilleures conditions d'existence, elles sont encore plus rares. Dans ces conditions, voter pour le RN peut apparaître comme le dernier espoir, d'autant plus que le RN augmente ses scores à chaque scrutin. De même, les idées d'extrême droite, ce sont les idées de la résignation. Peu de travailleurs pensent pouvoir s'en prendre aux milliardaires, mais prendre les aides à ceux que les journalistes appellent des assistés ou aux immigrés, cela peut sembler à portée de main. C'est quand la classe ouvrière reprend le chemin de la lutte de classe contre le patronat que les idées du reculent. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir ce qui se passe quand un mouvement national éclate, comme le mouvement des Gilets jaunes. Les chaînes de télé doivent mettre en sourdine leur musique raciste pour mentionner les salaires, les conditions de travail. Et tous les camarades qui ont vécu une grève savent que quand les travailleurs se battent contre leur patron, les barrières entre hommes et femmes, entre immigrés et français, tombent bien plus facilement, parce que l'unité est ressentie par tous comme une nécessité pour vaincre. Il n'y a qu'une manière de lutter contre l'extrême droite. C'est de construire un parti dans la classe ouvrière, qui défend les idées communistes, révolutionnaires et internationalistes. Il est vital de s'adresser aux travailleurs qui votent pour le RN, comme à tous les autres travailleurs. Ils sont dans notre camp. La CGT a récemment exclu de ses rangs des dizaines de travailleurs candidats du RN aux élections municipales. Ces mesures administratives, elles ne feront pas reculer les idées du RN. Les idées bourgeoises imprègnent la conscience ouvrière, oui, alors il faut les combattre. Et c'est en ayant un langage de classe qu'on peut les toucher. Se contenter de dénoncer les idées réactionnaires comme des idées bêtes, ou préconiser plus d'éducation pour les combattre, c'est ne rien comprendre à l'origine de ces idées. Que peut penser un travailleur, mis en concurrence avec des travailleurs afghans, de cet argument qui dit qu'ils sont tous les deux des êtres humains? Au mieux, que c'est vrai, mais que c'est eux ou lui. Au pire, que quelqu'un pour qui tout va bien lui fait la morale. L'internationalisme, l'idée que tous les travailleurs ont les mêmes intérêts, c'est la seule idée qui permet de gagner, et c'est ça qui est important. Les idées réactionnaires sont des idées de faibles. Croire que les économies faites sur le dos des étrangers, des sans-papiers, des assistés, comme disent les politiciens, permettront de vivre mieux, est une grave erreur. L'argent pris aux travailleurs étrangers ira une fois de plus dans les poches de la grande bourgeoisie. Et leur expulsion ne sauvegardera aucun emploi. Pour vivre dignement, et pour ne pas être sacrifié dans une nouvelle guerre mondiale, il n'y a pas d'autre raccourci, pas d'autre solution, que de se battre contre la bourgeoisie. Le problème n'est pas de savoir si on s'apprécie humainement, mais si on ne s'adresse pas à nos collègues, parce qu'ils sont maghrébins, ou noirs, ou femmes, le patron les utilisera nécessairement contre nous. L'arme du patronat, c'est la division, et la force de la classe ouvrière, c'est son unité dans le combat. Car aucun homme ni aucune femme providentielle, ne lui viendront en aide. Ces idées existeront dans les usines et les quartiers où des militants les défendent. Ce n'est qu'autour de ces idées-là, autour de ces idées communistes, révolutionnaires et internationalistes, qu'on peut construire un parti qui ne démoralisera pas les travailleurs avec le réformisme ou le nationalisme, ce qui est le meilleur moyen de les livrer aux idées réactionnaires. C'est autour de ces idées-là qu'on peut construire un parti qui se fixe comme objectif final d'arracher une bonne fois pour toutes la racine de toutes ces idées nauséabondes, le capitalisme.
Donc, merci pour votre intervention. Et moi, je voulais parler à propos de LFI, qui est un parti qui est de gauche, qui pourrait défendre les travailleurs. Et pourquoi, à votre sens, c'est une impasse? Et pourquoi ils ne pourraient pas entre dans le pouvoir, qui est une chose éventuellement possible, arriver à des acquis, même minimes, pour la classe ouvrière. Pas qu'avancer.
Je suis d'accord avec ce que tu as dit au début, mais là, ça m'a choqué quand tu as parlé de la CGT, qui virait les mecs et qu'il ne fallait pas les virer. Ça, par contre, là, ça m'agace sérieusement. Parce que je veux dire, moi, je suis à la CGT, je peux dire que les mecs ont fait le combat là-dessus. Il y a de plus en plus de mecs qui votent FN, effectivement, même dans les boîtes. Et il y a la CGT gangrénée partout par les mecs qui votent Le Pen. Je peux dire, on ne sait pas comment ça se passera, mais j'ai trouvé que c'était grave ce que tu as dit.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Ouais.
Alors, à propos de l'ESI, je ne vois pas comment un parti, tu remarques, un parti qui s'allie au PC, au PS, camarade a très bien expliqué tout l'historique de ces partis vis-à-vis de l'extrême droite, je ne vois pas en quoi c'est un progrès pour les travailleurs, pour la contribution.
Alors, peut-être que je vais passer pour un mou, mais en vrai, il faut qu'on ait des avancées un minimum. Et si on ne le fait pas là maintenant, en 2027, on n'aura rien. Non, mais c'est un fait. Il faut accepter ça. Mais peut-être que c'est rien, mais regardez, je prends un exemple. Les 35 heures. C'est cool.
Allez, bon, c'est une très bonne question, un très bon débat, mais pas à deux. Et voilà.
Merci. Alors, à propos de LFI, bon, en fait, le principe, enfin, ces partis, ces politiciens, quand même, ils n'ont aucune conviction. Voilà. Et leurs convictions, ils les jetteront par-dessus bord au premier virage venu. Voilà. Et quand même, on peut quand même rappeler que Mélenchon, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est pas un lapin de 6 semaines. Voilà. Mélenchon, il c'est un politicien voilà, roublard qui a été au PS, qui a été ministre du PS et qui a attaqué les travailleurs quand il était au PS. C'est pas comme si on pouvait pas savoir ce qu'il allait faire au gouvernement. Mais en fait, c'est même pas de ça sur lequel j'ai envie d'insister. Parce que sinon, même si c'est parti, ils trahissaient pas leurs promesses, vous voyez, même s'ils étaient honnêtes. Ils trahiraient quand même les intérêts de la classe ouvrière. Parce que dans cette période de crise du capitalisme, de crise profonde, ben la grande bourgeoisie, vous voyez, ben elle a même plus de miettes à lancer comme ça aux travailleurs qui sont dans les pays impérialistes. Oui, à une époque, elle a pu. Voilà. Il y a eu des partis socialistes, voilà. La bourgeoisie, elle a lancé quelques miettes. Voilà. Voilà. Parce qu'ensuite, certains ont appelé des avancées sociales. Voilà. Dans les périodes de crise, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, ces superbes avancées sociales, bah les travailleurs, voilà, des métropoles impérialistes, ils les ont payés cher. Ils les ont payés par les tranchées et les 10 millions de morts et les dizaines de millions de blessés. Voilà. Et ben aujourd'hui, on est dans la même situation. Aujourd'hui, toutes les miettes que notre bourgeoisie sur le pillage des colonies, sur le pillage des pays pauvres, elle avait pu lâcher à la classe ouvrière, aujourd'hui elle les reprend. Elle les reprend dans tous les secteurs. Et un Mélenchon, qui se retrouverait au pouvoir à la tête de l'État français, eh ben, il gouvernerait, dans les intérêts de la bourgeoisie. Il mènerait des attaques contre la classe ouvrière. De la même manière que Mitterrand, ce que j'ai rappelé, voilà, arrivé au pouvoir à une période de crise, ben, il a accompagné les attaques contre les travailleurs. C'est ça qui fera. Et ce sera quoi les conséquences de ça? La progression des idées humanistes? Du vivre ensemble? Ben non. Dans une période où, c'est la lutte de tous contre tous de plus en plus féroce, où c'est la jungle, ben, là, il y a deux idées possibles. Il y a les idées bourgeoises, qui sont, on va apporter quelques aides à certains, on va aller prendre dans la gamelle des immigrés, dans la gamelle des femmes, dans la gamelle des chômeurs, etc. Et la seule autre idée, ben, c'est les idées communistes. C'est cette idée que la classe ouvrière, ben, la seule chance qu'elle a de s'en sortir, voilà, c'est le fait que la bourgeoisie, elle l'a développée dans le monde entier. Elle a créé une classe sociale qui a des liens, voilà, qui participent, qui sont liés, des millions de travailleurs aux quatre coins de la planète, qui fabriquent toutes les richesses et qui pourraient prendre le pouvoir, voilà, pour renverser la bourgeoisie et utiliser les immenses ressources dont on dispose pour que la société, elle soit, elle soit réellement humaine. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Et, les partis réformistes, eux, ce qu'ils prouvent, ce que Mélenchon, il prépare, même s'il arrive au pouvoir, ce serait ça. Voilà. Une aggravation de la lutte pour le partage des miettes et une augmentation des idées réactionnaires. Voilà. Alors, voilà. On pourra en discuter. Et sinon, je voulais te répondre, le camarade qui milite à la CGT, alors je ne sais pas dans quelle boîte t'es. Moi, je comprends. Je comprends l'agacement que tu dois avoir par rapport à des collègues qui votent pour le RN. Je crois que tous les camarades qui sont ici et qui voient leurs collègues, qui voient même des membres de leur famille reprendre ces idées nauséabondes. Voilà. Comme une lettre à la poste. Ça les énerve. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon. Moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que la seule chose qui permettra de faire reculer ces idées, c'est que la classe ouvrière, collectivement, elle se batte. Voilà. Et pour ça, moi, je crois que les travailleurs qui, aujourd'hui, se laissent embarquer par les idées du RN, faut les gagner. Et d'une certaine manière, des mesures administratives, c'est lâcher le combat pour les gagner. Voilà. Moi, je crois qu'il faut les gagner. La bourgeoisie, il y a déjà suffisamment de divisions entre les travailleurs. Je sais pas si ces collègues, c'est des fascistes qui prennent des barres de fer pour aller cogner contre le syndicat. Je crois pas que ce soit ça. C'est des travailleurs qui reprennent des préjugés, qui ont d'ailleurs été défendus d'abord par des partis de gauche. C'est une nouvelle division, entre nos rangs. Voilà. Entre des travailleurs qui se laissent tenter par ces idées et d'autres idées. Au soir du premier tour des élections législatives, quand le RN il a fait des scores immenses, dans les usines, il y avait une nouvelle division, c'était entre ceux qui avaient voté le RN et qui le fêtaient ouvertement ou moins, et ceux qui n'avaient pas voté pour le RN. Moi, ce que je crois, c'est que les grands bourgeois, eux, ils se font la concurrence tout le temps. Mais quand il s'agit d'écraser la classe ouvrière, là, ils discutent. Ils sont capables de se mettre d'accord. Voilà. Moi, je crois que nous, c'est la même chose. Il faut qu'on soit capable de s'adresser aux nôtres. Et même, tu vois, est-ce que tu te sens plus proche des délégués des confédérations syndicales, ceux qui, justement, veulent jamais que les travailleurs ils se battent réellement, qui se donnent les possibilités d'aller jusqu'au bout de leur combat? Est-ce que tu te sens plus proche d'eux que de tes collègues qui sont à la CGT, mais qui reprennent des idées racistes, xénophobes? Moi, je crois qu'il y a deux camps dans la société. Voilà, la classe ouvrière et la grande bourgeoisie. Et je crois que le problème, c'est de maintenir l'unité des travailleurs. Voilà, et de combattre ces préjugés, parce que c'est un poison, et ça, je suis vraiment d'accord.
C'est bien, c'est plus des préjugés maintenant, c'est vraiment une haine raciale. Je pense que vous avez un temps de retard sur l'analyse, ça c'est mon point de vue à moi, mais de ce que je vois à mon niveau, j'habite dans le centre de la France, les scores du Front National sont énormes. C'est dans la salle de repos, sur 10 mecs, il y en a 7 qui sont Le Pen. C'est ça le truc, on en est là. C'est par exemple sur la liste à Châteauroux, c'est 10 ouvriers qui sont dessus, c'est des gens issus de l'immigration de troisième ou quatrième génération, c'est ça. C'est un parti là, actuellement qui ils font tout. Ils sont à 40%, voire 45% dès le premier tour chez nous. Et c'est ça. Et à la CGT, on voit bien comment ça se passe. Je veux dire, ça fait des années que c'est dans tous les syndicats, mais la CGT, c'est là depuis quelques années, c'est clair. Quand les gens disent on veut pas faire de politique, tu comprends pourquoi? Parce qu'ils veulent pas faire de politique. Non, là, nous on est pour le syndicat pour gagner notre route et tout, etc., pour défendre notre route. Mais voilà. Et c'est énorme. Là, on est sur une bombe. J'espère que Bardella sera pas là, mais je crois qu'il va venir. Je pense qu'on a, on va être dans le loi. Alors, on est en plein dans le débat.
Oui, moi aussi je suis militant CGT. Moi aussi je suis militant CGT et accessoirement sympathisant Réau. Mais ce que je voulais dire aux copains, c'est ça qu'il a peur parce qu'il y a 7 sur 10 qui sont au RN. Mais en fait, est-ce qu'ils ont tort d'être au RN ou est-ce que tu crois que tu ne peux pas leur faire entendre raison? C'est ça le problème, c'est que si tu abandonnes un petit peu qu'ils ont tort, c'est perdu d'avance. Moi, je pense que ces gens-là, ils ne sont pas franchement racistes, pas tous foncièrement racistes, et même s'ils le sont d'ailleurs, ils se trompent. Je pense que surtout, c'est la classe ouvrière qui vote pour RN se trompe. C'est à nous, militants de gauche et d'extrême gauche, de leur dire qu'ils se trompent, de les convaincre, de leur venir dans le bon chemin. C'est tout. C'est à nous de faire le boulot, parce que c'est nous qui l'avons laissé, à force d'accepter tout, et de ne pas se relever la, de pas relever la tête quand il y avait des salmons quelque part, de ne pas ouvrir notre gueule en disant « t'as tort », en leur laissant parler qu'aujourd'hui, effectivement, ils nous font peur. C'est à nous les convaincre. C'est à nous les convaincre.
Alors c'est vrai qu'on a plein de problèmes, ça c'est vrai. Il y en a, c'est ont passé, peut-être, je sais pas s'ils ont passé un point de non-retour. Mais par contre, il faut leur expliquer pourquoi t'as la haine. T'as la haine, c'est très bien, une haine, tu l'as pas contre les bonnes personnes. L'idée, ce serait vraiment d'arriver à ce que cette haine, ils arrivent à la détourner vers les patrons, vers la bourgeoisie. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est tout. Ouais. Approche-toi.
Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Arthur et je pense qu'il y a eu. Pardon, désolé. Je pense qu'une partie du problème qu'on analyse peut-être pas assez dans le débat aujourd'hui, c'est que, ok, il faut qu'on fasse du travail de fond pour discuter, leur faire comprendre qu'ils se trompent, mais on agit, on doit travailler contre un empire médiatique qui est fondamentalement xénophobe, raciste et qui. C'est hyper difficile de contrer tout ce travail de fond qui a été fait dans les dernières années. Qui a juste rendu les gens racistes. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire contre ça? Parce que on n'a pas la même influence médiatique à gauche pour pouvoir changer les avis des gens et des travailleurs. Quoi. Merci.
La haine raciale, comme tu dis, c'est une des conséquences du pourrissement de la société capitaliste. Une société en crise permanente. Et donc, il faut que la classe ouvrière, les travailleurs, les prolétaires, arrivent à se réapproprier leur histoire, l'histoire des luttes. Parce que sinon, s'ils restent comme ça dans la société capitaliste qui est pourrie, de plus en plus pourrie, effectivement, c'est l'individualisme. C'est le rejet de l'autre, c'est la méfiance, c'est... Voilà. Donc, il faut effectivement que les travailleurs se réapproprient l'histoire de leur lutte et qu'ils comprennent que leur intérêt est de lutter et de lutter quelle que soit leur couleur de peau, parce qu'ils ont les mêmes intérêts à combattre le capitalisme. C'est une histoire de conscience de classe. Voilà. Et c'est ça qu'il faut construire, qu'il faut arriver à construire. Et si les travailleurs ont une conscience de classe claire, le racisme recule.
Alors, tu veux répondre?
Bon, je vais répondre de manière générale, mais s'il y a quelque chose qui est oublié, n'hésitez pas à le dire. Moi, je suis d'accord que... Je connais pas ton point. Si tu dis que ça vient de la haine, voilà, et que ça pourrait même aller plus loin, bah oui, c'est possible que ça aille plus loin. Voilà. Y a des endroits, y compris, je parlais des communs. Moi, je suis pas un spécialiste. Mais ce que je sais, c'est que oui, il y a des barrages. Il y a des gens qui mènent des barrages. Alors, est-ce que c'est des travailleurs? Est-ce que c'est des petits bourgeois? Est-ce que... Bon, sûrement menés par des petits bourgeois, des travailleurs, il faut qu'ils mettent des barrages pour, expulser les Comoriens. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils les arrêtent? Est-ce qu'ils les tabassent? Moi, je ne sais pas. Mais effectivement, on pourrait aller vers ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nouveau. En fait, dans le mouvement ouvrier, ça s'est toujours produit. Moi, il y a des camarades du bassin minier, ils m'ont raconté que au 19e siècle, ce qui pouvait se passer, c'est que fin du 19e, il y a une grève dans le bassin minier pour expulser tous les travailleurs étrangers, tous les travailleurs polonais. Et les travailleurs commençant à les manifester dans les quartiers pour casser les vitres, pour casser les corons où il y avait des Polonais. Et ils sont tous barrés en Belgique. Des Belges, pardon, c'est pas tout ça. Mais voilà. Oui, mais peut-être qu'on va vers des périodes comme ça. Je dis pas le contraire. C'est vers ça qu'on va. Voilà. Maintenant, la question, encore une fois, c'est... moi, je suis convaincu qu'il faut s'adresser à eux. Voilà. Si on s'adresse pas à eux, on les laisse entre les mains du patron. C'est vrai pour les gens racistes, mais ça s'est posé au mouvement ouvrier pour d'autres problèmes. Par exemple, les jaunes, les briseurs de grève. Vous voyez? Et qui souvent d'ailleurs étaient des étrangers, parce que les patrons, ils allaient chercher, justement, par exemple, des mineurs en Belgique pour venir briser les grèves des mineurs qui étaient dans le Nord. Bon. Comment est-ce que les travailleurs, ils s'adressaient à ces briseurs de grève? Ils disaient que c'était tous leurs ennemis? Et qu'il fallait tous les tuer jusqu'au dernier? Ils auraient pu, hein. Mais ils auraient perdu. Voilà. Et les seules fois où ils ont gagné, ils n'ont pas toujours gagné, mais les seules fois où ils ont gagné, c'est quand ils ont cherché à s'adresser à eux. Voilà. Alors non, c'est pas ça. Voilà. Bien entendu, il y a un travailleur qui voit, mais même ça. Et c'est vrai, dans ton sens, tu vois, d'être contre ceux qui ont des préjugés racistes, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Un travailleur qui voit, ouais, l'exemple du travailleur afghan, c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré en porte-à-porte, à Bully Lenny, voilà, qui m'a dit ça. Je suis en concurrence avec des ouvriers afghans. J'ai moins de boulot. Voilà. Sauf que je dois payer mon crédit. Lui, il était pas raciste, hein. Lui, il m'a répondu, c'est eux ou moi. Voilà. Ben voilà, c'est un sentiment normal. On est en train de me prendre mon boulot, mon gagne-pain. Qu'est-ce que je fais? Bon. Ben, moi, je crois que la seule réponse, c'est, il faut que les travailleurs, ils retrouvent le moyen de s'adresser aux autres. Voilà. Lui, il faut qu'il trouve les moyens de s'adresser aux travailleurs afghans. Les travailleurs, il faut qu'ils trouvent les moyens de s'adresser aux briseurs de grève. Ça a toujours été ça, la seule solution pour que le mouvement ouvrier, ben, pour que les ouvriers, ils se fassent pas écraser. Et avoir par la division que les patrons, ils mettent entre nous. Voilà. Ça, c'est mon avis. Et ensuite, quand même, maintenant qu'on a discuté de ça, où ça nous mène de dire que ça, c'est impossible? Il nous reste quoi? La gauche? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à moitié d'accord avec le camarade qui dit on défend les idées de gauche et les idées révolutionnaires. Il nous reste la gauche. La gauche, c'est justement elle qui mène les travailleurs vers le racisme, vers la xénophobie, vers le nationalisme, vers toutes les idées du RN. Alors, il nous reste à voter pour la gauche. Juste pour dire, le racisme, tout le monde trouve ça infamant. C'est une tare. Voilà. Même les partis racistes, ils se défendent d'être racistes. Par contre, le nationalisme, et effectivement, Mélenchon, effectivement, il n'est pas raciste. Lui, justement, il défend la diversité, etc., etc. Mais le nationalisme, par contre, ça, c'est une idée qui est largement admise. Il y a même une fierté, voilà. Et la CGT, la direction de la CGT, comme Mélenchon, ils passent leur temps à défendre le nationalisme, voilà. Mais qu'est-ce que c'est au fond la différence de raisonnement entre le fait de dire il faut que l'usine elle reste en France et qu'elle parte pas en Pologne, ce que défend la CGT quand elle parle de protectionnisme économique, ce que défend Mélenchon quand il parle de protectionnisme et qu'il ajoute deux adjectifs de gauche là, solidaire et social. Voilà. C'est quoi la différence entre ce raisonnement-là et le raisonnement qui dit, dans mon usine, il faut qu'il y ait des travailleurs français et pas des travailleurs tchèques? Ben, en fait, c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement poussé un tout petit peu plus loin. Et ces partis politiques, notamment Mélenchon, qui passe son temps à défendre les idées nationalistes, c'est des idées qui poussent au racisme. Voilà. Voilà. La seule idée qui va à l'encontre de ça, c'est cette idée que les travailleurs, leur seule force pour pas se faire écraser par la bourgeoisie aujourd'hui, pas se faire emmener dans la guerre, c'est leur unité pour renverser le capitalisme. Il y a que cette idée-là qui s'y oppose. Voilà. Et pour terminer, ce nationalisme quand même. Effectivement, c'est une deuxième chose, mais le racisme, ça tue. Déjà aujourd'hui, ça tue. Et ça va tuer de plus en plus, sûrement. Mais le nationalisme, ça prépare des massacres d'une immense ampleur. Mélenchon, en défendant la France, en disant qu'il faut être fier d'être français, ben, il prépare les prochains massacres dans lesquels la bourgeoisie nous emmène. Parce qu'on est à une époque de guerre mondiale. Voilà. Et peut-être même qu'un Mélenchon, vous voyez, il sera bien mieux placé qu'un Bardella ou qu'un Macron pour faire accepter aux gens de prendre un fusil et d'aller mourir pour la patrie. Voilà. Parce que mourir pour la patrie d'un Macron, mourir pour la patrie d'une Le Pen, ça, il y a plein de travailleurs qui veulent pas. Par contre, mourir pour, comme dit Mélenchon, une France inclusive, une France qui tolérante, la France des droits de l'homme, bon, ben ça, c'est des arguments qui pourront toucher des travailleurs. Et c'est pour ça que, faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Et la seule idée qu'il faut défendre, c'est pas la lutte, c'est même pas la lutte contre la discrimination, c'est l'unité de la classe ouvrière pour renverser le capitalisme. Voilà.
répondre rapidement, parce que sinon ça pourrait durer très longtemps, insister que, est-ce que le racisme, ben, c'est le capitalisme qui l'a mené? Non. Le racisme, la division, c'est une arme que les classes possédantes, elles ont utilisée à partir du moment où il y a eu des classes sociales pour dominer dans la société. Voilà. Et effectivement, le racisme, ça fait partie de ces divisions que la bourgeoisie elle a cherché à exploiter pour dominer. Voilà. Et elle a créé le racisme. Voilà. C'est ça que je tiens à dire. C'est pas des préjugés, le racisme. Le racisme, c'est pas un manque d'éducation. Le racisme, c'est des idées qui sont façonnées par des gens qui sont pardés de diplômes, qui sont les plus grosses têtes que produit la société bourgeoise, et qui réfléchissent à comment faire pour que les gens ils s'entretuent. Le racisme au Rwanda, c'est le dernier exemple que j'utiliserai, mais le racisme au Rwanda, c'est les Congos, les colonisateurs qui ont inventé deux ethnies à partir d'un peuple, voilà, où il y avait des pasteurs et des agriculteurs. Ils l'ont inventé en inscrivant sur la carte d'identité l'ethnie à laquelle tu appartenais, en donnant des droits différents en fonction de ce que tu avais écrit sur ta carte d'identité. Voilà. Et ils sont allés jusqu'à un génocide. Bon, voilà.
Non, je voulais juste revenir sur un petit aspect par rapport au cri du cœur du camarade par rapport à l'histoire de la CGT qui exclut les candidats du RN. Moi, je partage ta crainte, les boules devant l'évolution et qu'il y a un certain nombre de gars autour de nous qui sont en train de basculer et y compris se porter. Alors, c'est des listes municipales, hein. On sait que les listes municipales, les gens qui sont dessus ne partagent pas tout. Mais il y a des gars qui ont accepté d'être candidats des listes municipales, alors, hein, il y a plein de gens loin, parfois des idées des uns et des autres, hein, qui y sont. Bon, donc c'est cela que la CGT a voulu exclure, elle les a répertoriés. Alors on peut dire, ouais, pourquoi pas finalement, c'est incompatible. Mais la même CGT, il y a 2 ans, elle a fait une campagne pour le vote de Front Républicain, au deuxième tour, ces mêmes mecs, ces mêmes hommes et femmes, elle les a appelés à voter pour Darmanin, pour Combes, pour Hollande, pour les crapules qui nous portent les coups depuis des années, en expliquant que ceux qui votent pour le RN, c'est des papos, c'est des réacs, etc., voire des fachos. Bon, et ben, ça me fout les boules, moi, que les chefs de la CGT, l'appareil, c'est ça comme politique. La seule chose qu'ils ont à dire à ces travailleurs-là, c'est on te fout dehors. Bon, en sachant, comme tu le dis toi-même, que ailleurs, dans d'autres boîtes, t'as des syndicats entiers qui sont en train de basculer. Bon, le camarade a évoqué Mayotte, la CGT de Mayotte. En fait, elle a approuvé les barrages et y compris un certain nombre de positions bien dégueulasses contre des Comoriens sans papier qui voulaient se faire soigner dans l'hôpital, etc., etc. Bon, donc, c'est ça qu'on veut dire, si tu veux. Là, en réalité, enrayer cette évolution qui monte, qui t'inquiète, qui nous inquiète, ouais, ça ne sera pas sur ce terrain ni de la morale, ni de l'exclusion, ni de l'administratif. Ça s'enrayera en réalité dans des luttes, peut-être même défensives, en commun contre les patrons. Mais uniquement, c'est ça qui saoule les travailleurs, quand ils se battent ensemble. Et chaque fois qu'il y a eu des grèves, quand même, dans des boîtes, etc., ces divisions-là, à l'intérieur de la boîte, elles ont reculé. Bon, donc c'est sur ce terrain-là qu'on doit miser. Et c'est ça la politique qu'on défend.
Alors. Militante LO. Moi, je voulais dire quelque chose, c'est que, oui, les travailleurs, il y en a beaucoup qui sont racistes, il y en a beaucoup qui sont sexistes, il y en a beaucoup qui ont plein d'idées de merde dans la tête, celles que la bourgeoisie les a créées. C'est à cause d'eux, c'est à cause des capitalistes. C'est eux qui ont ces idées de merde, c'est eux qui nous transmettent, ça dégouline sur toute la société. C'est ça que je veux dire. Et ben moi, j'ai envie de compter sur ces gens-là pour faire la révolution, pour changer le monde de demain. Ces gens qu'on traite de débiles, de bêtes, de racistes, de sexistes, qui battent leurs femmes, qui ont des idées de xénophobes, etc. Ben moi, j'ai envie de compter sur eux pour faire la révolution, pour changer le monde de demain. Et bah, ça, les bolcheviks, ils l'ont fait. Les bolcheviks, les ouvriers en Russie, eh ben, ils avaient plein d'idées antisémites. Et plein d'ouvriers, ils ne savaient même pas lire, même pas écrire. Ils battaient leurs femmes. Et ben, ils ont fait la révolution et ils ont fait ils ont fait des avancées que le capitalisme aujourd'hui, 100 ans après, il n'a pas fait. Voilà.
Je voulais juste rajouter que ce que je pense, c'est que le racisme, c'est un moyen utilisé par la bourgeoisie pour nous faire regarder ailleurs, en bas, alors que notre problème, il est en haut.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'ouvriers qui soient nés directement racistes. Par contre, c'est nous, ça, c'est né directement de la bourgeoisie. Oui. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que les idées d'extrême droite, ça se démontre très facilement, parce que même pour ce qu'ils prétendent défendre, je veux dire, Mélanie, il y a 3 ans, quand elle a été élue, c'est on va arrêter toutes les régularisations. 2 ans après, le patronat qui demande 400 000 migrants, elle prend les 400 000 migrants. Ça, tu dis à un mec raciste d'extrême droite, il va voter qui? Il va encore voter l'extrême droite après, tu penses? Donc par contre, quand tu lui expliques clairement que c'est les migrants, justement, qui font tourner l'économie, que sans les migrants, il n'y a plus d'entreprise qui fonctionne, est-ce que tu crois que lui-même, du coup, il se retrouve aussi au chômage, est-ce que tu crois que là, tu ne vas pas plus te convaincre?
Alors, tu demandais du coup qu'est-ce qu'on fait pour que, puisque maintenant ce qui a été laissé par la trahison des organisations réformistes, c'est un champ de ruines, c'est la désorganisation des travailleurs qui a laissé les idées de la grande bourgeoisie se développer. Bon, moi je voudrais juste dire, oui, effectivement, maintenant il y a un courant de fond. Il y a un courant de fond qui fait que ce sont les idées réactionnaires, les idées nationalistes, la xénophobie, voilà, tous les préjugés et les plus bêtes qui sont en train de se développer. Et ce courant de fond, il est lié à la crise. Il est lié, à la jungle qui est en train de se développer, à la lutte de tous les travailleurs contre tous qui est en train de se développer. Voilà. Et d'une certaine manière, même les médias, voilà, l'influence médiatique, tu disais, est-ce qu'il faudrait pas... nous, on n'a pas les médias qu'ils ont, etc., mais... Maintenant, même ces médias-là, ils arrivent à un moment où ils ont un public, voilà, pour écouter cette propagande dégueulasse contre les immigrés tout le temps, voilà, qui a l'oreille qui est d'une certaine manière ouverte pour entendre les préjugés nationalistes. Parce que c'est pas que les médias qui diffusent ces idées-là, voilà, c'est dans toute la société, les chefs, les sous-chefs, c'est les petits bourgeois qui relèvent la tête, qui défendent leurs idées auprès des travailleurs et qui les influencent, parce que aujourd'hui, oui, la classe ouvrière, elle mène pas de combats d'ensemble, de combats généraux qui lui permettraient de reprendre confiance en elle-même. Voilà. Pour l'instant. Et alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, et je vais conclure sur ça. Voilà. Moi, je crois que, voilà, on vit dans une période de recul. Voilà. Mais c'est justement dans les périodes, comme celle dans laquelle on est entré, dans les périodes où la bourgeoisie, elle écrase toute la société, où elle fait reculer les conditions d'existence de tout le monde, et où elle nous emmène dans de nouvelles guerres généralisées, dans cette période où, du coup, y compris, elle domine les esprits, elle écrase les esprits de la classe ouvrière, elle domine la conscience de la classe ouvrière. C'est y compris dans ces périodes-là qu'il peut y avoir des périodes d'explosion sociale, qu'il peut y avoir des révoltes. Voilà. Et justement parce que les exploités, ils peuvent pas rester éternellement l'arme au pied quand on détruit leur existence, que le chômage, la misère et les guerres, elles se multiplient. Et c'est quand même pour ces moments où tout devient possible que les révolutionnaires y militent. Et faut garder cela à l'esprit, car justement, lorsque la classe ouvrière se battra, c'est à ce moment-là que nos idées, elles seront les plus importantes. Voilà. Parce que ces idées communistes, c'est la seule boussole qui permettra aux travailleurs de se battre jusqu'à renverser ce système à bout de souffle. Mais pour qu'ils puissent s'en saisir, il faut qu'aujourd'hui, dans notre période, où c'est dur, où c'est démoralisant de voir nos collègues reprendre ces idées-là, il faut tenir. Et justement, tenir, c'est pas qu'une histoire individuelle. C'est pas tenir chacun dans son coin, avec ses idées dans sa tête.
Tenir, c'est une affaire collective. Et c'est pour ça qu'on veut construire un parti. Parce qu'y compris, pour lutter contre tout ce torrent, tout ce flot d'idées réactionnaires, avoir quelque chose à répondre à chaque fois, garder le moral, garder le cap, il faut construire une organisation. Voilà. Que dans chaque usine, que dans chaque quartier, il y ait des cellules de militants communistes qui discutent de ces idées-là et qui les défendent. Ou au moins qui les gardent en tête. Voilà. Et il y a ceux qui les défendront ouvertement, et puis il y a ceux qui participeront à leur classique. Parce qu'ils seront dans l'organisation, ils aideront à ce qu'on puisse diffuser notre acte, à ce qu'on puisse maintenir la liaison, etc., etc. Ben oui, notre période aujourd'hui, elle réclame ça. Voilà. Alors bon, mais justement, on peut, comment dire, c'est à cette condition, parce qu'on réussira à construire cette organisation, que lorsque la classe ouvrière se mettra à nouveau à se battre, et que les idées vers lesquelles elle se tournera, ce seront plus les idées du tout réactionnaires, mais ce seront des idées pour se battre. Parce que c'est ces idées-là qu'elle cherchera. Bon, c'est dans ces périodes-là que si on a construit une organisation, la classe ouvrière, elle pourra s'en emparer et aller, il y a des périodes où c'est possible, jusqu'au renversement du capitalisme.